RCF.
Le temps que nous vivons est un temps de combat, de désespoir parfois, mais aussi un temps de grandeur, d'émerveillement. Et pour lire notre monde contemporain, l'éclairage d'un écrivain considéré par beaucoup comme prophétique et salutaire, voir notre époque avec le regard de Bernanos, c'est ce que vous proposez, Monseigneur Patrick Chauvet. Bonjour.
Bonjour, oui, effectivement, c'est ce que je propose. C'est comment Bernanos, à travers ses écrits, peut nous donner au moins du discernement. Des nouveaux points de repère. C'est pas quelqu'un de passéiste, donc il est pas là pour me dire « ah, de mon temps », mais plutôt de dire « comment vous allez faire pour avancer dans ce monde qui est un petit peu difficile, inquiet, qui traverse des périodes de guerre, de nouveau, qui est un monde... Oui, où la morale bouge, où ce qui était permis devient interdit, ce qui était interdit devient permis. Donc les gens sont un peu perdus. Et je pense qu'on a besoin d'un homme comme Bernanos pour pouvoir nous redire, voilà, attention où tu mets les pieds et quels sont les enjeux.
Alors Bernanos, c'est un écrivain que vous connaissez bien. Vous avez étudié ses écrits, vous en avez donné des conférences. Et puis vous venez de publier Bernanos sans concession aux éditions Fayard. Vous êtes vous-même curé de l'église de la Madeleine, on le précise, dans le diocèse de Paris, ancien recteur archiprêtre de la cathédrale de Paris. Et dans ce livre, vous proposez de vous arrêter sur notre temps, vous le disiez. C'est un de vos écrivains préférés. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est un de vos prophètes préférés ?
Moi, je pense que c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Je pense que nous avons besoin de retrouver ces auteurs chrétiens qui ont quelque chose à nous dire et qui ne soient pas simplement des vieux schnocks pour nous dire voilà, de mon temps c'était si bien. Non, de notre temps c'était pas si bien, c'était pareil. La preuve, c'est qu'il dénonce il y a 80 ans. Alors on pourrait se dire, mais tout ça, ça se répète. C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi répéter un certain nombre de choses.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser que, justement, la lecture de Georges Bernanos, qui est né à la fin du 19e siècle, mort en 1948, qu'est-ce qui vous fait penser que Bernanos peut justement nous aider à comprendre ce qu'est la liberté, à rester libre, à mieux vivre, à mieux discerner au final ?
La question, effectivement, chez Bernanos, c'est celle de la liberté. Mais je saute 80 ans et j'écoute le pape François. La question du pape François, c'est celle de la liberté. C'est normal d'ailleurs pour un jésuite. Ce qui déroute d'ailleurs un peu les gens. C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien dire grand 1, petit 1, petit alpha. Voilà. Le pape dit non. Non, non, moi je propose un chemin et c'est à vous de faire ce chemin. Et donc Bernanos est aussi un homme qui est un homme libre, profondément libre. D'ailleurs, le sans concession est clair, c'est un homme entier qui ose voir des choses et qui ose le dire. Et je trouve que son analyse peut éclairer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le rapport aux médias, le rapport à l'Internet, le rapport, enfin bref, au numérique en tout cas, qui n'existait pas à son époque. Mais de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qui est dangereux ?
Alors pour le discerner justement, vous appelez à ne pas fuir ce monde parce que vous dites que le chrétien, il est l'âme de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez dire ? De quelle manière est-ce que le chrétien peut être l'âme du monde envers et contre tout, je dirais ?
Cette expression, je la prends dans une lettre du IIe siècle, l'épître à Diogonète. Et effectivement, on présente le chrétien comme l'âme du monde. C'est-à-dire, ça reprend au fond l'évangile. On est la lumière, le sel de la terre, hein, on est la saveur. Et ça serait dommage que les chrétiens n'aient plus la parole et que les chrétiens n'aient plus quand même quelque chose à dire dans ce monde. L'âme de ce monde, mais Bernanos pose la question, est-ce qu'il y a encore des gens qui parlent de l'âme ? Ah oui, est-ce qu'aujourd'hui, si on interrogeait les gens dans la rue, on dirait qu'est-ce que c'est que l'âme ? Est-ce qu'il faut lier l'âme au corps ou il faut séparer ? Voilà, donc c'est vrai que dans le vocabulaire aujourd'hui, le mot âme a disparu. Et il y a 80 ans, il avait déjà disparu.
Vous le définiriez comment ? C'est quoi être l'âme du monde ? Qu'est-ce que c'est venir redire à nos contemporains, à ceux qui nous entourent ?
Alors, l'âme du monde, on doit être au cœur de ce monde. On ne peut pas fuir le monde, puisque le Seigneur nous y a mis. Hein. Mais on est là pour essayer de peut-être redécouvrir la saveur de ce monde. Il y a des choses belles dans ce monde. Et puis, il faut défendre, peut-être, effectivement, quelques valeurs. Hein. Il faut les défendre. Mais les défendre en justifiant pourquoi on veut, par exemple, l'espérance. Voilà.
Oui.
Très bien. Une vertu théologale. Comment on peut être des signes d'espérance? Comme disait Saint Jean-Paul II, il nous disait « Soyez des sentinelles de l'espérance ». Bah, je pense qu'il a dû piquer ça à Bernanos. Enfin, je lui demanderai quand j'arriverai là-haut. Mais Bernanos ne parle pas des sentinelles de l'espérance. Mais il dit la grande tentation de notre monde, c'est effectivement celle du désespoir. Et on risque d'y succomber. Et quand je vois notre monde aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, de dramatique aussi, hein, de beau aussi, mais on parle surtout du drame. C'est ça qui est embêtant. Eh bien, on risque de sombrer dans cette désespérance, alors que le chrétien, lui, doit être une sentinelle de l'espérance. Comment, dans notre monde, on est, quand les gens viennent vous voir et vous dire « Oh là là, ce monde, c'est effrayant, tout casse, les murs tombent, il y a la guerre, il y a tout. »
Certains disent « Je ne veux plus entendre parler de ce
oui,
qui se passe. »
Oui, parce qu'ils prennent sinon un cachet à la fin du journal, donc c'est très mauvais. Non, non, il ne faut pas prendre de l'exomile. Non, non, alors il y en a certains, mais moi, je ne veux pas me couper
mais
du monde.
Mais c'est difficile, mon Seigneur Chauvet, d'aimer malgré tout, d'aimer quand même, d'aimer justement son temps, comme on y est appelé. Alors, où trouver justement cette espérance dont vous parlez?
Eh bien, je me dis, vous savez, quand je regarde moi les informations, je suis un peu ahuri de tout ce qui se passe. Et d'un autre côté, je me dis, mais attends, quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que tu vas porter un peu un regard de foi? C'est-à-dire, je vais essayer de repérer quand même des petits signes qui me font dire que la petite flamme, ou comme dit Peggy, la petite espérance, elle est encore là. Elle est encore là. Et donc, si je devais faire le 20h, eh bien, je présenterais tout ce qui se passe en vérité. Mais aussi, j'essaierais de donner cette petite lumière. Malgré tout, notre monde va mal, et pourtant, il y a des gens qui se donnent, il y a des gens qui s'occupent des plus pauvres, il y a des gens qui sont des artisans de paix, il y a des gens qui travaillent par en dessous pour essayer de voir comment on peut de nouveau retrouver la concorde. C'est merveilleux, il faut en parler peut-être un peu plus.
Ça, c'est un regard qu'il faut porter.
Un regard, changement de regard. Mais l'espérance, c'est quand même un regard. Quand on regarde le catéchisme de l'Église catholique, l'espérance chrétienne, c'est effectivement de ne pas mettre son nez dans le guidon. Enfin, c'est pas mis comme ça tout à fait dans le catéchisme, mais ça veut dire ça. Ne pas rouler avec le nez dans le guidon, mais de regarder au loin. Qu'est-ce que je regarde au loin? Eh bien, je regarde effectivement le royaume, là où je suis attendu. Mais je me dis, il faut pas attendre d'être dans le royaume. Ce chemin que je suis en train de prendre et d'emprunter, eh bien, je dis, si je pédale dur sur mon vélo, pour être écologique, eh bien, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux voir tous ces signes d'espérance autour de moi pour me faire grandir ce désir de voir Dieu. Quand je cherche des signes d'espérance, eh bien, il y a pour moi, en tout cas, une joie intérieure, parce que voir quelque chose de beau, c'est déjà voir Dieu. C'est habituer nos yeux à voir Dieu et non pas passer notre temps à voir la guerre, le mal, les gens qui se tuent, ceux qui ont des armes blanches maintenant, on s'entretue. Je dis, mais c'est pas possible.
Alors Georges Bernanos va jusqu'à dire que l'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance n'est pas une complaisance envers soi-même, elle est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. Vous complétez en disant que c'est un acte héroïque?
Oui, c'est un acte héroïque. La petite espérance, c'est un acte héroïque et d'autant plus héroïque aujourd'hui qu'on nous présente un monde où il n'y a plus d'espérance. Vous voyez? Et moi, je pense pas, naturellement, je pense qu'il y a de l'espérance. Hein. Heureusement, d'ailleurs, ça serait terrible. Mais Je rencontre, mais même parfois, des chrétiens engagés qui baissent un peu les bras en disant « mais à quoi bon ?» C'est terrible de dire « à quoi bon ?» parce que ça veut dire, c'est comme pour ceux qui font de la qui prient. S'il dit « à quoi bon ?» ça ne sert à rien. « J'obtiens rien à mon père. Je prie, mais j'obtiens rien. À quoi bon ?» Ben, moi, je leur dis, comme Thérèse d'Avila, qui disait à ses sœurs, « Vous restez 5 minutes de plus. » Et vous verrez que dans les 5 minutes de plus, eh bien, le Seigneur va vous parler. Ben, ça encourage, vous savez. Donc, se dire, alors, ceux qui font 2 heures, ils disent, 2h05, c'est quand même dur. Mais ben, même ceux qui font que 10 minutes, je leur dis, allez, passez au quart d'heure. Vous verrez.
Accepter aussi que on a une forme d'impuissance et qu'elle est comblée par Dieu. Est-ce que c'est aussi ça, l'espérance? C'est que notre volonté ne suffit pas?
On commence à espérer quand on a vu notre fragilité. Si quelqu'un se trouve fort et qu'il n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin d'espérance, hein. Il suffit, il s'auto-suffit. Le problème, c'est qu'on n'est pas fort, on est tous fragiles. Mais il faut oser voir notre fragilité, il faut oser voir nos limites. Un père du 4e siècle, un père du désert, vous savez, ces moines qui vivaient dans le désert, un peu comme un peu des sauvages, ils avaient des idées. Et il y en a un qui dit, on devient adulte dans la foi quand on a vu ses limites et qu'on les a acceptées. Eh bien, notre monde doit accepter qu'on a des limites. Parce que si on veut dépasser ses limites ou faire comme s'il n'y avait pas de limites, on déclenche la guerre. C'est ce que nous vivons.
Monseigneur Chauvet, je cite un passage sur lequel vous vous arrêtez dans l'un des livres de Bernanos intitulé « La liberté, pourquoi faire ?». Ce passage dit « Il s'agit de relever l'homme, c'est-à-dire de lui rendre, avec la conscience de sa dignité, la foi dans la liberté de son esprit ». Est-ce que vous pensez, Patrick Chauvet, qu'on a désespéré de notre liberté et qui nous la vole? Qu'est-ce que ça veut dire, la foi dans la liberté de son esprit?
Peut-être faut-il redéfinir un petit peu la liberté. Et je vais m'appuyer sur saint Augustin. Saint Augustin dit que la source de la liberté, ce n'est pas le libre arbitre, c'est-à-dire de faire ce que je veux. La source de la liberté, c'est la liberté intérieure. Ça veut dire l'orientation de tout mon être vers ce pourquoi j'ai été créé. Et cette liberté intérieure qui est mise en cause et qui sera toujours mise en cause, même du temps de saint Augustin, voilà, qui se pose la question pourquoi il a perdu sa liberté. Et donc, aujourd'hui, Bernanos nous pose la question et se dit, mais dans notre monde aujourd'hui, est-ce que nous avons perdu notre liberté intérieure? Le pape François revient souvent sur cette notion de liberté intérieure, car derrière la liberté, il y aura aussi la vie spirituelle, la vie intérieure. Cette intériorité dont manque notre monde, puisque nous vivons à la surface de nous-mêmes. Moi, je suis à Paris, tout le monde court. Les gens qui viennent à la Madeleine, ils courent, ils montent les marches en courant, ils repartent en courant. Bon, bref, ils font le tour de la Madeleine et puis ils repartent. Donc, tout le monde court. Mais vous voyez que là, on n'a plus la possibilité de s'asseoir et de retrouver un peu cette liberté. Je pense que, mais Pascal, le philosophe, disait la même chose. Nous ne savons plus nous asseoir. Rester dans le silence.
Vous pensez qu'on ne ferait pas les mêmes choix? On ne déciderait pas de la même chose? On n'utiliserait pas notre liberté de la même manière si l'on se posait davantage? Alors, dans la prière, encore mieux, mais si, en tout cas, on donnait de l'importance à cette autre forme de liberté?
Ça, je pense que le monde changerait. C'est évident, à savoir que on se précipite aujourd'hui. On se précipite, tout va très vite. On est dans un monde qui va très vite. C'est-à-dire que, comme me disait un bon prêtre africain, vous, vous courez toujours après le temps. Nous, c'est le temps qui court après nous. Donc, je veux dire par là que si on veut vraiment exercer notre liberté intérieure, ben, il faut déjà s'asseoir et poser les conditions du pour, du contre, comment je vais discerner. mais on est tout de suite réactif et je pense pas qu'il faille. Il faut vraiment prendre le temps et d'interroger cette liberté. Pourquoi ? Mais parce que la liberté intérieure, elle va me montrer là où je suis attendu, là où je vais me réaliser. Je ne veux pas dire, par exemple, sur la fin de vie, je pense que les gens se sont quand même un peu assis avant pour réfléchir, pour prendre le peser le pour, le contre. Il n'empêche que moi, j'ai essayé de m'asseoir et puis j'ai essayé de réfléchir en disant qu'est-ce que tu feras quand tu seras sur ton lit d'agonie. Et moi, je suis plutôt comme Bernanos. Même si j'aurais un peu peur, parce que j'aurais sûrement un peu peur, on a le trouillomètre à zéro, vous savez, quand on est en train de vivre son agonie. Il a raconté beaucoup d'agonie hein, dans ses œuvres. Il n'empêche que c'est un lieu où se vit notre liberté intérieure.
La mort,
oui. Ah oui, la mort fait partie de notre vie. Hein. Et cette mort, elle doit avoir un sens. Aujourd'hui, pour bon nombre, on cache la mort. On a peur de la mort. Donc elle n'a pas de sens, c'est du non-sens. On pourrait même dire que la mort est un scandale. L'homme est fait pour vivre, il n'est pas fait pour mourir. Et il n'empêche que, nous, comment je vais me situer, comment je vais vivre ma liberté devant la mort? Est-ce que je vais vivre la mort comme une fatalité? Il faut bien mourir. Mais ça, ça ne rapporte rien du tout, hein, parce que ça, on le sait bien qu'on va bien. Mais comment, moi, je vais essayer de vivre cette mort dans un acte d'offrande? C'est-à-dire, par exemple, c'est ma foi, hein, mais dire « Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté ». Bon, alors là, la mort, elle prend là un sens. Et là, j'engage ma liberté. Et je souhaite, hein, au moment où il faudra que j'y passe, hein, ben moi, je souhaite pouvoir engager toute ma liberté intérieure. Me voici, Seigneur, je viens faire. C'est mon ultime acte d'offrande qui récapitule tout ce que j'ai essayé de faire pendant ma vie, mais de se dire, voilà, les mains ouvertes, je suis vide, j'ai rien à apporter, j'arrive, comme dirait la petite Thérèse, les mains vides, mais j'arrive avec ma liberté, j'engage ma liberté. Chez Bernanos, c'est très important. C'est-à-dire, quand le curé de campagne, le curé d'Ambricourt dit, comment vais-je faire pour mourir ? Il faut que ça soit glorieux. Au départ, c'était ça. Il faut que ça soit. Ouais. Il faut pas que je rate. Hein. Et donc, ça se termine comment? Ça se termine d'abord. Un, on lui annonce qu'il a un cancer. Il pense même pas au bon Dieu, mais il pleure. Hein. Et il a pas une parole en se tournant vers le bon Dieu. Bon. Et puis, il termine sa vie chez son ami prêtre défroqué. La maîtresse est là. On cherche un curé. Il y en a pas pour lui donner le sacrement. Voilà. Et il dit, je vais mourir comme je peux. Voilà. Il n'y a pas de choses extraordinaires. Je vais mourir comme je peux. Et il termine, qu'importe, tout est grâce. Alors là, il a réussi, lui, pour le coup. Là, parce que dans ce tout est grâce, il donne vraiment, dans cet acte vers Dieu, il donne sa liberté.
La liberté intérieure, si elle n'est pas si évidente à installer dans notre vie aussi, c'est parce que il y a des freins. Parmi les freins, vous vous arrêtez justement sur le temps qui va très vite. Bernanos le fait dans son livre « La France contre les robots ». Je vais citer ce passage que vous donnez dans votre livre. « La tragédie de l'Europe au XIXe siècle, l'inadaptation de l'homme et du rythme de la vie qui ne se mesure plus au battement de son propre cœur, mais à la rotation vertigineuse des turbines et qui d'ailleurs s'accélère sans cesse. » Le culte de la vitesse s'oppose à la vie intérieure.
Ah, je crois que oui, parce que je vois bien, moi, à Paris, on court tout le temps. Mais est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir? Voilà la grande difficulté, c'est que nous ne prenons même plus le temps de nous asseoir. Et je me disais, pendant le temps du confinement, je me disais, les gens vont enfin pouvoir s'asseoir un peu, réfléchir, se dire, mais qu'est-ce que... On est dans un monde...
Ça a eu lieu.
Oui.
Vous diriez qu'il reste des traces, justement, de ce que le Covid a permis de comprendre?
Malheureusement, non. Je pensais que ça allait changer beaucoup de choses. Mais c'était quand même... D'ailleurs, c'était signifiant que les gens partent. Pourquoi les gens sont partis? Ont quitté Paris. Alors que c'était ridicule parce que c'est la première fois que moi j'ouvrais ma fenêtre et j'entendais les oiseaux. Donc je me dis, mais je suis à la campagne, enfin j'entends les oiseaux. Et quand j'allais célébrer à Saint-Germain-l'Auxerrois, je rencontrais des canards qui se promenaient sur la rue. Mais je dis, mais c'est merveilleux, où suis-je? Mais tout ça a vite disparu en un jour quand le confinement a été terminé. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse au moins faire une expérience de se dire ce silence. Le silence.
Vous diriez qu'avec ce temps vient aussi la gratuité. Quelle place on laisse aujourd'hui à la gratuité? Parce que la question que pose Bernanos, c'est aussi celle du profit, de l'économie, évidemment de la vitesse, du rendement.
Alors lui,
et cette place pour la gratuité.
Oui, vous avez raison. La gratuité, ça veut dire ce qui est de l'ordre de la grâce, ce qui est gracieux. Voilà, on est dans un monde du profit. Donc c'est vrai que perdre du temps pour les autres, c'est perdre de l'argent. Puisqu'il faut surtout qu'on travaille, mais on travaille d'abord beaucoup trop, à mon avis, parfois. Et je me dis, mais c'est quel dommage qu'il n'y ait pas un peu cette gratuité dans le dialogue, dans la rencontre, dans la charité. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, je vois dans ma paroisse, les gens qui s'occupent des SDF, les gens qui s'occupent dans la rue, qui viennent dîner au réfectoriat chez moi. On a 75 personnes tous les soirs.
Sous la Madeleine.
Sous la Madeleine. Oui. Et ils sont reçus, j'allais dire, comme des rois. Tout est beau. Et donc, ça leur permet de rêver un peu. Parce qu'ils vont pas, ils iront jamais chez Maxime ou chez Lucas Carton qui est juste à côté.
Mais vous allez jusqu'à dire que ça, c'est une question de responsabilité aussi, de savoir justement discerner ce qu'on fait de son temps. Est-ce qu'on s'est déresponsabilisé?
C'est-à-dire que nous vivons à la surface de nous-mêmes. Donc la responsabilité, elle en prend un coup. On devient parfois totalement irresponsable. Irresponsable.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Si, ce qui me fait dire, c'est par exemple, c'est un sujet d'actualité, tout le problème de la drogue. Mais pourquoi, dans mon quartier, je peux vous dire que les gens, ils se droguent. Et je ne suis pas dans le 19e, ou le 20e, ou le 18e.
Vous êtes en plein cœur de Paris, il faut le redire.
Oui, oui. Hermès, Dior, enfin bref, toutes les grandes maisons. Mais tous les gens qui travaillent, tous les cadres qui travaillent, mais vous savez, je les vois travailler parfois jusqu'à minuit. Mais les gars, il faut bien shooter un peu, comme ils disent, pour tenir, pour le rendement. Mais si on était responsable, moi j'arrêterais. Je vais dire, mais quelle est votre famille? On leur livre des petits sacs de nourriture. Ils sont avec leur écran devant. Ils essayent de manger un sandwich pour essayer en même temps de ne pas perdre de temps, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Je vais dire, mais quelle vie? Quelle vie? Et donc là, je pense qu'on a une responsabilité. Et s'ils ont une famille, je ne sais pas quand l'épouse les voit.
Oui, mais ils ont la responsabilité de payer leur loyer aussi dans ce quartier.
Merci. Et de faire de l'argent.
L'écrivain catholique Georges Bernanos invite à retrouver son esprit d'enfance, la simplicité, la joie, la pauvreté qui nous conduisent à la confiance et à l'abandon. Qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste jusqu'au bout fidèle à l'enfant que je fus, écrit-il dans Les grands cimetières sous la lune en 1938. Et c'est cette confiance en Dieu de Bernanos qui vous a particulièrement touché, Père Patrick Chauvet. Et dans votre ouvrage, vous citez souvent Sainte Thérèse comme si sa pensée, sa spiritualité, elle infusait les écrits de Bernanos. Alors qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les tient si proches l'un de l'autre?
Oui, parce que j'allais dire, Bernanos, effectivement, est un passionné de la petite Thérèse, par la simplicité de vie, par la confiance, par, au fond, la grâce de Thérèse, c'est d'avoir gardé cet esprit d'enfance. C'est la petite voix, la voix de l'enfance, et c'est ça qui a marqué profondément la pensée de Bernanos. Et sur son lit, son chevet d'agonie, il y avait les dernières paroles de la petite Thérèse. Donc, il voulait vivre un petit peu, comme Thérèse, sa mort. Mais c'est vrai que Il cherche à garder, mais on sait très bien que notre esprit d'enfance, il disparaît. Et donc il veut que ses lecteurs puissent retrouver cet esprit d'enfant. Vous l'avez résumé, l'esprit d'enfant, c'est la simplicité. Et c'est vrai que c'est important. L'adulte, plus on avance, plus on a l'art de tout compliquer. L'enfant, il s'émerveille. Il se simplifie et il a confiance. Il a confiance en ses parents, il doit avoir confiance en ses maîtres. Voilà, cet esprit d'enfance. Et je trouve que on est dans un monde où on risque de perdre cet esprit d'enfant. Je prends l'exemple encore parce que c'était plutôt amusant d'ailleurs. C'était triste mais amusant. Pendant le confinement, on savait pas si on pouvait aller dans les églises. Et puis Noël allait approcher quand même. Bon. Et un député qui nous dit, ben voilà, vous pourriez peut-être célébrer Noël au mois de juillet. Et je vais dire, mais... Et il le disait, pas en se moquant. Et je repensais à une page de Bernanos où il disait « on nous vole Noël et donc on nous vole l'enfance ». Parce que la fête de Noël, c'est la fête de l'enfant, c'est à la fois l'enfant Dieu, hein, le bébé, et en même temps notre émerveillement.
La place de l'émerveillement, peut-être qu'elle est à retrouver, l'émerveillement, la surprise faire
mais
de,
mais
de
la
sa
surprise,
vie.
La surprise, moi. Alors là, pour le coup, il me souvient, je me préparais à cette fête, je ne regardais pas dans le salon s'il y a quelque chose qui allait arriver. Tu crois au Père Noël quand même pendant 3 ou 4 ans, mais après, j'ai bien compris que ce n'était pas du tout Père Noël. Mais il n'empêche qu'il y avait cet émerveillement. L'émerveillement, et je trouve d'ailleurs merveilleux de voir un enfant ouvrir un paquet cadeau, avoir ses yeux qui s'ouvrent, qui remplit de joie. Et je voudrais qu'on s'émerveille de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, parce qu'il y a de très belles choses.
Mais Patrick Chauvet, un jour, on devient un adulte, on parlait de la responsabilité tout à l'heure. Comment on peut être tiraillé entre, évidemment, cette envie de continuer à goûter la vie et d'un autre côté, on ne va pas passer sa vie à chasser les papillons. Donc, comment garder à la fois cette fraîcheur et tenir sa place dans une société où on nous demande de nous engager aussi?
Il faut, naturellement, il faut quitter l'âge de l'enfance. D'ailleurs, le problème aujourd'hui de nos jeunes, c'est qu'ils restent au niveau de l'adolescence. C'est une société adolescentrique, et donc on n'arrive pas à passer à l'âge adulte. Mais on peut être adulte, s'engager, et en même temps garder en nous cette simplicité.
C'est l'esprit d'enfance.
C'est l'esprit d'enfant, oui.
Alors, on va écouter Bernanos dans son ouvrage « Le dialogue des Carmélites
oui. »,
où il y a une belle définition de la simplicité, justement. « Mon enfant, dit la prieure au moment de son agonie à l'une des sœurs, quoi qu'il advienne, ne sortez pas de la simplicité. Oh ma fille, soyez toujours cette chose douce et maniable dans ses mains. Les saints ne se raidissent pas contre les tentations, ils ne se révoltent pas contre eux-mêmes, la révolte est toujours une chose du diable. Et surtout, ne vous méprisez jamais. » Ce qui est intéressant avec ce passage, c'est à la fois la définition de la simplicité, mais aussi l'amour de soi-même, en quelque sorte. S'aimer soi-même. Voilà la tendresse à laquelle on est appelé aussi.
Oui. Pour s'aimer soi-même, il faut d'abord se connaître. Ça, c'est la grande sagesse. Gnotis et Auton. Connais-toi toi-même. Il faut se connaître. On l'évoquait dans une émission, hein, connaître ses limites, connaître ses richesses. On porte des richesses. Hein, et l'éducation, ça c'est l'ancien prof qui parle, mais l'éducation, c'est valoriser toutes les richesses d'un enfant, d'un adolescent, et de le conduire à cette croissance. L'autorité. C'est précisément, auctoritas en latin, c'est la croissance. Faire croître toutes ces qualités qu'un jeune porte en lui. Et que s'il est doué pour le dessin, il faut valoriser ce côté artistique. S'il est doué pour le théâtre, eh bien, on le met sur la scène.
Enfin, on rejoint la liberté ici aussi.
Ah ben oui. Et je pense que le Seigneur donne à chacun des qualités que parfois on n'a pas découvert. Je pense à tous ces jeunes qui voilà, ont peut-être été dévalorisés. Mmh. Je crois que dans l'éducation, il faut faire très attention. Un jeune est porteur d'un potentiel. Et ça rejoint l'esprit d'enfance.
Monseigneur Patrick Chauvet, nous évoquons l'esprit d'enfance, la simplicité. Écoutons un passage du journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, où il est question de cette confiance, de cet abandon. Il est lu par le comédien Frédéric Folcher.
L'espèce de méfiance que j'avais de moi, de ma personne, vient de se dissiper. Je crois pour toujours. Cette lutte a pris fin. Je ne la comprends plus, je suis réconcilié avec moi-même, avec cette pauvre dépouille. Il est plus facile qu'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ.
Il est plus facile qu'on croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. C'est puissant aussi,
quel
ça.
Quel beau passage. Quel beau passage. Oui, ça me fait penser aussi à saint Augustin. Au moment de sa conversion, il dit « Je me suis réconcilié avec moi-même. J'étais un être divisé et ça y est, je suis unifié. » Eh bien, le curé de campagne qui vit d'échec en échec.
Oui, hein, parce que
le pauvre homme, il vit d'échec en échec. Hein. Eh bien, il n'empêche que là, il n'a plus de haine envers lui, mais voilà, il s'efface pour laisser, pour laisser la grâce agir.
Mais le confesseur que vous êtes entend souvent peut-être cette difficulté, et là je cite à nouveau, de s'aimer humblement soi-même.
Ah ben je vais pas vous dire comme ce que j'écoute en confession, mais
non, mais comment réconforter
les gens ? C'est sûrement un point important. Mm. Comment aider quelqu'un qui parfois même est écrasé par son péché, qui a du mal à se pardonner lui-même d'ailleurs, d'avoir fait ce qu'il a fait. Eh bien, comment je vais l'aider à grandir? Je crois que je vais l'aider à grandir en disant d'abord « Dieu t'aime, et Dieu t'aime comme tu es. T'as rêvé d'être comme ci, et ben t'es comme ça. » Et donc, de se dire à partir de ce que tu es, voilà, Dieu va essayer de faire de la grâce. Voilà. Donc tu vas être transformé en profondeur. Les gens, parfois, ont du mal à comprendre que Dieu les aime comme ils sont, avec leurs tendances, avec leur histoire de péché et tout. Mais j'allais dire, il est venu pour ça. Hein. Il n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les saints pécheurs, ce que nous sommes. Mmh. Et donc, pour moi, c'est très important de faire redécouvrir. Vous savez, j'ai des catéchumènes, j'ai la grâce, vous savez, on est dans un temps où il y a beaucoup de catéchumènes, oui. Donc moi j'en ai une dizaine, et ce qui est merveilleux...
Les catéchumènes, ce sont, juste pour repréciser,
oui,
c'est
des adultes hein,
grands jeunes qui demandent le baptême.
Voilà, ils ont entre 19 ans et 30 ans, et qui demandent le baptême, et qui viennent là, d'ailleurs c'est un peu incroyable, ils viennent là, sans doute attirés par Marie-Madeleine, voilà. Ils rentrent dans l'église, ils viennent voir un prêtre, bon, et ils sont... voilà, ils disent, nous avons été comme attirés, et le Seigneur nous a dit, je t'aime. Voilà, malgré leur histoire, difficile parfois, ils entendent au fond d'eux cet appel, je t'aime. Voilà, faire découvrir à tous ces jeunes, et moins jeunes, mais faire découvrir qu'on est aimé gratuitement, on est, voilà, même si on est un peu cabossé, on est aimé. Eh bien, ça, c'est vraiment, c'est ce que dit le pape François. Je pense que c'est important, c'est le message de l'Église. Et on évoquait l'espérance hein, dans une émission. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette espérance, c'est que même quand on est cabossé, Dieu nous aime. Ça ne veut pas dire qu'il faut arriver tous cabossés, hein, mais ça veut dire que Dieu nous aime avec notre histoire. Avec notre histoire. Sainte Thérèse d'Avila dit que la sainteté, c'est de tomber et de se relever. Mais c'est formidable.
Bernanos, cet écrivain catholique nous fait découvrir ce qu'est l'enfer en même temps qu'il nous fait découvrir l'espérance à travers la figure d'un personnage de son récit journal d'un curé de campagne. C'est la châtelaine du village et le jeune curé d'Ambrécourt vient la rencontrer. La comtesse, c'est une femme dure et froide. Elle a perdu autrefois un enfant, un fils, et elle est envahie par le désespoir. Alors elle observe bien tous ses devoirs religieux, mais elle déteste Dieu, et voilà que le jeune prêtre maladroit vient lui parler de l'enfer. Un enfer où sont enfermés ceux qui sont rongés par la haine. Je voudrais qu'on écoute un extrait de ce texte, de ce qu'est l'enfer pour Georges Bernanos.
Non, je ne me tairai pas, madame. Les prêtres se sont tus trop souvent, et je voudrais que ce fût seulement par pitié. Mais nous laissons dire. Et qu'est-ce que vous avez fait de l'enfer, vous autres? Une espèce de prison perpétuelle, analogue au vôtre? Et vous y enfermez par avance le gibier humain que vos polices traquent depuis le commencement du monde. Les ennemis de la société, vous voulez bien y joindre les blasphémateurs et les sacrilèges? Quel esprit sensé, quel cœur fier accepterait sans dégoût une telle image de la justice de Dieu? Lorsque cette image vous gêne, il vous est trop facile de l'écarter. On juge l'enfer d'après les maximes de ce monde, et l'enfer n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde, et encore moins du monde chrétien. Un châtiment éternel, une éternelle expiation. Le miracle est que nous puissions en avoir l'idée ici-bas, alors que la faute à peine sortie de nous, il suffit d'un regard, d'un signe, d'un muet appel pour que le pardon fonce du plus haut des cieux comme un aigle. Ah, c'est que le plus misérable des hommes vivants, s'il ne croit plus aimer, garde encore la puissance d'aimer. Notre haine même rayonne, et le moins torturé des démons s'épanouirait dans ce que nous appelons le désespoir, ainsi que dans un lumineux, un triomphal matin. L'enfer, madame, c'est de ne plus aimer.
Alors on entendait le comédien Frédéric Folcher lire cet extrait. En quoi Bernanos, avec sa description de l'enfer, est assez décapant, est assez courageux même?
Ah oui, c'est courageux, parce qu'aujourd'hui, qui croit en l'enfer, on est persuadé qu'il n'y a plus d'enfer. C'est-à-dire que finalement, on croit qu'il n'y a pas de Satan. Satan n'existe pas, que ce serait une invention en eux-mêmes. Alors je ne vais pas faire peur à tous les auditeurs en disant, attention, Satan est là, il rôde, il est autour de nous, il y a plein de petits diables. Mais, osons le dire, le diable existe, et que parfois, il est à l'œuvre, et qu'il a l'art de détruire, d'abord de détruire l'amour. Et ce que nous voyons, tous ces conflits que nous voyons dans notre monde aujourd'hui, c'est quand même le fruit, non pas du diable, mais c'est encore le diable quand même qui suscite dans le cœur des belligérants un refus de la paix, un désir de destruction. Le diable détruit ou enferme, comme dit Bernanos. Voilà, on est enfermé. La comtesse, hein, cette fameuse femme, elle est enfermée dans cette souffrance, hein, parce que c'est une souffrance. Enfermée dans cette souffrance, elle tient voilà, la petite mèche de son fils comme une propriété. Et alors, il y a ce pauvre curé, voilà, qui est complexé parce qu'il n'est pas du même niveau social. Il est complexé parce qu'il voilà, il a du mal à parler devant une femme quand même très cultivée. Imaginez-le, un peu gauche, il a son béret entre les mains. Et puis, il faut qu'il parle à la comtesse. Et je trouve ça merveilleux, parce que c'est la plus belle scène. Car c'est lui, seulement lui, avec la grâce, hein, qui arrive à ce que cette femme ouvre son cœur, alors qu'elle n'arrivait pas à l'ouvrir. Elle désarme. Mais moi, je trouve ça fantastique que ça soit ce petit curé. Voilà, ce petit curé de campagne qui doit boire un petit peu, mais qu'importe, il n'empêche qu'il est là et il arrive à la faire désarmer. Vous savez, pour moi, c'est quelque chose d'émouvant. Quand j'ai commenté un jour au Bernardin, ce cours, non, c'était à Saint-François-Xavier, je faisais une conférence en évoquant la comtesse. Et à la fin, j'ai vu une femme qui est venue me voir, qui pleurait. Et elle me dit, vous savez, la comtesse, c'est ma mère. Et j'étais bouleversé. Parce que j'avais montré comment cette femme est passée de l'enfer au paradis. Même si elle n'a pas été, elle n'a pas eu le temps d'être confessée, puisqu'elle devait venir le lendemain. Mais elle est morte dans la nuit. Et ça, c'est pas le rôle du diable. Ça, c'est le rôle de la grâce. Hein, elle est morte dans la nuit, mais il faut dire que c'est quel choc spirituel. Quelqu'un qui est enfermé par ce drame qu'elle a vécu, la perte d'un enfant, et que, voilà, par le biais de ce pauvre curé de campagne, elle ouvre son cœur. Mais j'allais dire, tout est déversé. Hein, les vannes sont ouvertes. Hein, elle peut pleurer, elle peut... Voilà. Elle découvre enfin le prix de cette liberté intérieure dont on a déjà parlé.
Oui, elle fera volte-face d'une certaine manière. Elle va vraiment redonner sa confiance. Comme vous le disiez, elle se désarme.
Elle désarme en jetant cette petite relique de son fils. Elle jette dans le feu, mais tout ça pour montrer sa liberté. Enfin, elle est libre et enfin elle va pouvoir vivre. Et le Seigneur l'appelle la nuit. Mais qu'importe, parce que là, elle vit sûrement auprès du Seigneur.
Et vous diriez alors avec Bernanos que l'enfer, c'est de ne plus aimer, parce qu'on parle souvent de l'enfer, j'allais dire, en macro-échelle, mais à l'échelle de notre vie, l'enfer, c'est de ne plus aimer, c'est de se détourner de Dieu. C'est quoi l'enfer ?
Oui, l'enfer, c'est, je pense que vous avez, il le dit bien, c'est d'être enfermé. Voilà. L'enfer, c'est effectivement de ne plus aimer ou de croire qu'on n'est plus aimé. Il y a des gens qui se créent leur enfer parce qu'ils disent « Dieu ne m'aime pas ». Et donc, ils sont comme en enfer. L'enfer, c'est quoi ? C'est le lieu où Dieu n'existe pas. Voilà, l'enfer, c'est ça. Et donc, il y a des gens qui souffrent de cette absence de Dieu parce que, voilà, ils ne comprennent pas le mystère de Dieu. Ou ils se mettent en dehors du mystère de Dieu. Et ça, c'est l'enfer. Et donc, on dit souvent l'enfer est sur terre. Ben oui, je me dis l'enfer est sur terre quand vous n'êtes pas aimé, quand vous n'êtes plus aimé, quand vous vous mettez, on l'a dit aussi dans une émission précédente, quand on ne s'aime plus. Je veux dire, voilà l'enfer. Ou, je pense à Mère Teresa, hein, elle disait, voilà, l'enfer, c'est, enfin, la plus grande pauvreté, c'est quand on ne vous regarde plus. Que vous êtes dans la rue, vous êtes en train de faire la manche, voilà, et vous voyez que les gens détournent leur regard. Ça, c'est la plus grande pauvreté. Mais je pense que c'est une forme aussi d'enfer, de se dire, mais je suis là, pauvre comme Job, et personne ne me regarde.
C'est vrai que vous vous posez la question dans votre livre, quel visage a Satan ? Vous insistez sur le diable qui perturbe la conscience, qui monte les fidèles contre le Christ. C'est possible, ça ?
Mais oui. Quel visage a Satan ? Je pense à... Alors là, sous le soleil de Satan. Oui. C'est-à-dire le grand combat entre l'abbé de Nissan, ce curé, jeune curé, et un personnage qui est le diable.
Sous le soleil de Satan, c'est un autre livre de Georges Bernanos.
De Georges Bernanos. Et donc là, il a l'audace, dans ce livre, de donner un visage à Satan. Donc c'est ce personnage séducteur, voilà, et qui veut faire tomber l'abbé de Nissan. C'est donc l'image du combat spirituel. Et donc, Denisson est perdu, il avance, c'est la nuit, c'est boueux, c'est humide, c'est glauque, c'est l'enfer. Et donc, il tourne, il fait des kilomètres, il revient au point de départ, etc. C'est le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il est enfermé. Enfermé, et le diable est là, et il le séduit. Comment il le séduit? Bon, il voit sans doute une brèche, c'est la bise de Nisson, une fragilité affective, sans doute. Mais aussi, il va célébrer la messe. Il va faire comme s'il célébrait une messe. En faux, naturellement, mais voilà. Donc, il va essayer d'aller sur le terrain aussi du spirituel pour voir comment on va déstabiliser. Mais le diable fait ça encore aujourd'hui. Il connaît nos brèches. Il sait où ils sont. Il peut rentrer par là pour nous faire tomber. Et c'est pour ça qu'il faut connaître nos fragilités.
Les cardinaux, les évêques, les prêtres, les groupes de laïcs, parfois un peu trop actifs. Bernanos vient nous dire que l'Église, ce n'est pas ça. L'Église, ce sont ceux qui désirent l'amour de Dieu, des pécheurs qui font avec leurs défauts, avec leurs misères, mais qui, selon Bernanos, se sont jetés en avant. Bref, des aventuriers. Et ce portrait de l'Église, vous semblez le rejoindre dans votre livre intitulé « Bernanos sans concession », que vous publiez chez Fayard. Monseigneur Patrick Chauvet, vous êtes aussi recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et avec vous, nous écoutons cet extrait du livre « Jeanne, relapse et sainte », écrit par Georges Bernanos en 1934. Et il est lu par Frédéric Folcher.
Qui s'approche de l'Église avec méfiance ne croit voir que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse, quel cardinal sa pourpre, quel pontife sa robe blanche, ses camériers, ses suisses et tout son temporel? Qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure? Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure. Qui l'a une fois compris, est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. Notre Église est l'Église des saints. Tout ce grand appareil de sagesse, de force, de souple discipline, de magnificence et de majesté n'est rien de lui-même si la charité ne l'anime. Mais la médiocrité n'y cherche qu'une assurance solide contre les risques du divin. Qu'importe, le moindre petit garçon de nos catéchismes sait que la bénédiction de tous les hommes d'Église ensemble n'apportera jamais la paix qu'aux âmes déjà prêtes à la recevoir, aux âmes de bonne volonté. Aucun rite ne dispense d'aimer. Notre Église est l'Église des saints.
Monseigneur Chauvet, alors que vient vous dire ce texte? Comment est-ce que vous comprenez cette expression de Georges Bernanos, notre Église est l'Église des saints?
Des saints. Je pourrais faire un lien avec un texte du pape François qui est sur la sainteté ordinaire. Voilà. On a les grands saints, des grandes figures de sainteté. Et puis il y a la grand-mère, voilà, qui est une sainte. C'est la sainteté ordinaire. Il n'y a rien d'exceptionnel, d'extraordinaire. Il n'empêche que, dans l'ordinaire de sa vie, elle a essayé de vivre cette fidélité à l'amour. Et donc, je crois que... Mais ça, c'est Bernanos. Hein. Tout ce qui était institutionnel et tout, il n'aimait pas beaucoup. Toutes ces démonstrations du Vatican, il n'aimait pas beaucoup. Et donc, pour lui, ce qui l'intéresse, c'est... C'est-à-dire, c'est pas la peine de changer, de faire des réformes, non. C'est la sainteté qui transformera l'Église. Je dis souvent, moi, vous savez, dans mes prédications, hein, je dis, nous avons la grâce d'être des saints. Je m'arrête un peu, pécheurs. Voilà, on est des saints pécheurs. C'est-à-dire qu'on a déjà la grâce de sainteté en nous par le baptême.
Mais vous, Monseigneur Chauvet, comment est-ce que vous composez personnellement avec cette église dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous avez sûrement reconnu dans cette description le côté un peu majestueux ou un peu de trop parfois? Comment est-ce que vous composez vous-même avec ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, que vous fuyez, avec lequel vous faites la magnificence et la majesté, disait Bernanos.
Moi, j'ai connu hein, les cardinaux avec une capa magna de 8 mètres de long. J'ai connu le cardinal Veuillot. Je le vois encore arriver dans mon collège à Sainte-Croix de Neuilly. La voiture officielle, il sortait avec... Je me dis, mais voilà, c'était... Mais on était voilà, heureux de voir la pompe. Puis il y a un moment, quand vous êtes jeune, la pompe, ça, on est ébahi, on ne sait pas très bien d'ailleurs qui c'est, ça n'a aucune importance. Mais il n'empêche que aujourd'hui, je rends grâce qu'il n'y ait plus cette pompe, parce que c'est vrai que c'était un peu lourd. Je ne voudrais pas non plus qu'il n'y ait plus aussi le respect. C'est-à-dire que je suis allé au Vatican il n'y a pas longtemps, hein, à Sainte-Marthe, là où habite le pape. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous êtes en train de manger vos pâtes. Hein, et qu'est-ce qu'on voit arriver à 20h, 19h30, 20h, la porte s'ouvre et c'est le pape qui arrive. Bon. Et on m'avait dit, surtout, te lève pas. Alors je ne me suis pas levé, moi. Pourtant, mon éducation me disait, lève-toi, c'est le pape. Hein, surtout, te lève pas. Bon, alors, le pape est là, il s'assoit, il dit, bonasera, très bien. Il prend sa pasta, il va se faire réchauffer sa pasta. Au micro-ondes, bon, et moi j'étais là, un peu ébahi, je dis, mais attends, je suis à 3 mètres du pape, voilà, et donc alors, je me suis resservi exprès pour lui dire un petit mot, quoi, et je me suis dit, voilà, ça c'était quand même un grand changement, entre des, même Benoît XVI, quand même, qui était encore, et je me dis, alors là, on est tombé, pas bas, mais c'est une autre forme. Et je ne sais pas ce que fera le successeur, d'ailleurs. Mais je me suis dit, après tout, c'est une proximité. C'est ce qui caractérise ce pape. C'est la proximité. Eh bien, la sainteté, c'est sûrement dans cette proximité. Vous savez ce qui a touché dans les premiers siècles et que le christianisme s'est répandu? C'est la proximité. Les dieux païens, ils sont au 7e ciel et ils se moquaient parfaitement de ce qui se passait sur terre. Le dieu des chrétiens, lui, il est descendu sur terre et il s'occupe de chacun d'entre nous. La sainteté, ça doit être effectivement d'une proximité avec l'autre, par la charité, par exemple, par l'amour. Mais c'est la proximité pour dire une parole d'espérance. Je pense que là, il faut inventer ou réinventer un peu cette sainteté. On est des saints pécheurs, mais je vous dis, hein, qu'importe, le Seigneur le sait. Hein. Mmh. Il a pris ses risques. Moi, je vous dis, et moi, il m'a choisi hein, pour être prêtre. J'ai dit, tu prends tes risques. Hein. Ah, mais il les a pris. Hein. Ben, regardez, hein. Ça fait 44 ans que je suis prêtre, hein, ça pourrait être pire. Ça pourrait sûrement être mieux aussi. Hein.
Prenez aussi l'exigence de vérité qui guide Bernanos dans ses critiques de l'institution.
Oui, je pense que, et c'est ça qui gêne un peu, Bernanos est gênant parce que lui, il veut la vérité. Il veut qu'on fasse la vérité.
Et qu'il est profondément catholique et qu'il aime profondément l'Église.
Ah, mais il aime son Église. Il aime son Église et jamais il va trahir. Il donne des descriptions de l'Église extraordinaires. Voilà, c'est une maison, ouais, c'est une maison de famille. Bon, ben, tout est un peu cassé, il y a une table cassée, il y a les pots de confiture qui sont vides. Il dit, mais je connais ça. Hein, voilà, ou alors la sacristine. La sacristine qui se tue et qui meurt finalement parce qu'elle nettoie le sol, elle nettoie les parquets, les machins, et il termine, c'est le curé qui termine hein, en disant, ben voilà, son erreur c'est de croire que l'église devait être un reliquaire. Mais non, c'est pas un reliquaire, c'est une maison où, voilà, c'est un peu le foutoir. Donc, c'est vrai que il demande la vérité. Il y a un endroit où il dit, ce qui est terrible pour l'église, c'est parfois on cache la misère de l'Église. Et c'est vrai qu'on l'a fait, hein, dans le drame de la pédophilie, c'est vrai qu'on a caché. Et là, il est très dur. Il dit, il vaut mieux dire notre misère. La dire, parce que c'est comme ça qu'on peut restaurer. Alors on l'a dit maintenant, hein, et c'est comme ça qu'on peut se transformer. Il a l'audace de parler et de bousculer, et de nous bousculer, parce qu'il se bouscule aussi, lui. Hein,
oui, il n'a pas peur aussi de dire que la médiocrité qu'il observe, elle le concerne lui aussi. Il est travaillé par cette question de la médiocrité, la sienne et celle des autres.
Oui. D'abord, et pour bien comprendre quand même notre ami Bernanos, hein, c'était pas un grand professionnel dans les assurances, ça n'a pas marché. Ouais. Il est parti au Brésil, il s'est occupé, lui qui était un littéraire, de vaches, prendre une ferme avec des chevaux et tout, mais il savait pas du tout faire. Bon, puis après il est revenu, voilà. Il travaillait, vous savez, le journal d'un curé de campagne, j'ai eu la grâce de voir le manuscrit. C'est étrange, le manuscrit. Et ce manuscrit, on voyait qu'il travaillait sur la table d'un bistrot. À un bar, enfin dans un coin, et puis de temps en temps sur une page, il y a des chiffres, sans doute qu'il devait faire ses comptes, soit il y a un petit dessin, et puis il y a de l'autre côté, il y a le texte, il rature et tout. Donc c'est quelqu'un qui vivait aussi dans un peu d'une pauvreté, hein, c'est clair. Et donc il voyait bien aussi hein, sa médiocrité, mais je pense pas qu'il aurait eu une très grande carrière, que ça lui aurait plu. Parce que lui, il cherchait sa liberté. Donc il voulait sa liberté. Donc devenir monsieur Bernanos, ça devait le rendre malade. Oui, Bernanos voulait garder sa liberté.
À quoi Bernanos vous a encouragé, vous personnellement, père Patrick Chauvet?
Ah voilà, peut-être qu'au moment du drame que j'ai vécu à Notre-Dame, au moment de l'incendie. Ça a été un moment qui a été très dur pour moi. J'étais recteur de la cathédrale à ce moment-là. Et donc... C'est vrai que c'était irréalisable. Je vais vous donner un exemple. Le lendemain de l'incendie, mes frères me disent « Bon, qui dit la messe ce matin ?» Je leur dis « Mais attendez, mes pauvres amis, il n'y a plus de messe. On ne peut plus rentrer dans la cathédrale. C'est fini, tout est brûlé. » Et donc là, j'ai entendu un peu comme un Bernanos me dire « Voilà, surtout désespère pas. L'espérance, elle va être là. C'est ça qui va te mener. » Et c'est vrai que Bernanos m'a aidé dans ces 4 années de vivre vraiment cette espérance en disant « Dieu ne peut pas nous abandonner. » Et de ce drame sortira un bien.
Merci, Monseigneur Patrick Chauvet. Vous êtes curé de l'église de la Madeleine dans le diocèse de Paris, ancien recteur, vous le disiez à l'instant, archiprêtre de la cathédrale de Paris. Et puis vous venez de publier cet ouvrage « Bernanos sans concession » aux éditions Fayard. Merci à vous.
Merci beaucoup.